Ce programme vous est proposé en partenariat avec l'ambassade des États-Unis.
Les grands débats.
Radio de la paix.
Bonjour à tous, bienvenue à l'émission Démocratie en progrès. Pour ce numéro du mois de juin 2023, nous allons débattre du thème éducation et formation des jeunes aux médias, outils et moyens de lutte contre la désinformation. La désinformation est l'une des préoccupations majeures des pays démocratiques. Derrière les fausses nouvelles ou fake news, se cachent souvent des stratégies visant à manipuler l'opinion publique et à affaiblir les États et leurs institutions. Les fausses rumeurs et la désinformation représentent depuis longtemps une menace mondiale pour la liberté et la démocratie. Mais aujourd'hui, le péril est d'autant plus grand que les plateformes numériques décuplent la vitesse de propagation des campagnes de diffusion de fausses informations. Ces dernières années, nous avons pu assister à une accélération du flux d'informations, mais aussi des désinformations, comme le montre notamment l'infodémie qui s'est propagée sur les réseaux sociaux à l'occasion de la pandémie de Covid-19. Pour échanger sur le thème qui nous réunit aujourd'hui, à savoir éducation et formation des jeunes aux médias, outils et moyens de lutte contre la désinformation, je suis en compagnie de Mademoiselle Rita Pascal Kouamina, elle est présidente de l'Association des blogueurs de Côte d'Ivoire. Je suis en compagnie de Monsieur Kébé Mamadi, il est journaliste, fact-checker au site ivoirecheck.com. Je suis également en compagnie de Monsieur Kanga Donatien, il est enseignant-chercheur à l'ISTC Polytechnique. Modérateur de ce panel, Bendia Kité, réalisation Antoine Kouassi.
Radio de la paix. Se parler, s'écouter, se comprendre.
Mesdames, Messieurs, bonjour. Voici donc présenter nos invités ainsi que le thème qui va donc nous réunir durant une heure de sujet de débat. Nous allons donc discuter avec nos différents invités sur la problématique de l'information, mais surtout de l'éducation aux médias, mais de l'éducation également à l'information. Comme je le disais tantôt, je suis en compagnie de spécialistes de la question. Il s'agit donc de Madame Kouamina Rita Pascal, qui est donc la présidente de l'Association des blogueurs de Côte d'Ivoire. Alors, Madame Kouamina, lorsque on vous demande, par exemple, c'est quoi l'information et pourquoi c'est si important d'avoir une information de qualité dans une société?
Merci beaucoup. Déjà, il faut savoir que l'information, c'est ce qui va donner sens à notre vie. Donc, c'est important que l'information qu'on va diffuser à la population soit des informations vraies et justes pour éviter qu'il y ait plein de chaos et tout. Donc, pour moi, c'est vraiment crucial que ce soit des professionnels, des personnes qui sont outillées en la matière, qui puissent vraiment s'occuper de porter cette information à la population.
Alors, Monsieur Kanga Donatien, vous qui êtes donc enseignant-chercheur, quelle est la place de l'information dans la vie sociale? Pourquoi l'information prend une place importante dans notre vie de tous les jours? Pourquoi il faut s'informer? À quoi ça sert une information?
En fait, la place, l'importance de l'information est liée au modèle de société que nous avons construit ou que nous idéalisons quand nous lisons nos différentes constitutions. Nous disons, pour la plupart des pays et pour le monde aujourd'hui, l'un des idéaux, c'est la démocratie. Et donc, dans la démocratie, vous avez, pour faire simple, un pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Et pour que le peuple puisse justement prendre les bonnes décisions pour son avenir, pour l'avancée de la société dans laquelle ce peuple évolue, il faut qu'il soit informé. Il faut qu'il ait tous les outils, il faut qu'il soit éclairé. Et c'est en ce sens que l'information devient captable parce que cet idéal, il est confronté à un pragmatisme. C'est qu'on a beau dire pouvoir du peuple à le peuple, on a des représentants. Donc le peuple n'est pas passe-tout pour avoir toutes les informations que par exemple le président a. Que l'Assemblée nationale a, que la justice a. Et c'est là, justement, les médias interviennent pour jouer, justement, ce rôle de médiateur, pour faire circuler l'info, afin que tout le monde soit au même niveau d'information, au même niveau de culture, pour prendre des décisions de façon éclairée. Donc, pour faire simple à la question, c'est que sans information, en fait, on ne pourra pas bâtir efficacement des sociétés démocratiques comme nous l'envisageons, comme nous le souhaitons. C'est un leurre. Si l'information ne circule pas, nous sommes dans d'autres systèmes. La dictature, la tyrannie, voilà. Mais si nous voulons vraiment la démocratie, il nous faut obligatoirement donner une place d'honneur à l'information et donc à ses professionnels. C'est en cela que le journaliste, par exemple, et tous les acteurs de l'information ont un rôle noble parce qu'ils ont ce rôle de médiateur, de faire circuler l'information au sein de la société, au sein de toutes les parties prenantes de la société, pour que tout le monde soit vraiment au même niveau de culture et de décision dans sa prise d'action et de responsabilité.
Alors, monsieur Kébé Mamadi, avec vous, on va vous demander, dans notre société, comment l'information s'est présente, qui donne l'information, qui l'utilise, pour quel objectif, en fait ?
Merci beaucoup pour la question. Comme l'a si bien signifié Dr. Donoisien, l'information est donnée par des professionnels à l'endroit de la population et dans le but d'informer, comme on l'a dit. C'est pourquoi on dit souvent de confier cette tâche à des professionnels qui s'y connaissent dans la matière, qui connaissent les règles qu'on doit utiliser pour véhiculer de bonnes informations.
Quelle est la place du peuple par rapport à ces informations ? C'est vrai que vous dites, dans tout ce que j'entends, ce n'est pas tout le monde qui est habilité à utiliser cette information. Il y a une catégorie de personnes qui doit distribuer ou faire parvenir, faire circuler, comme l'expression qu'a utilisée M. Kanga. Mais la place de celui qui consomme cette information, il est à quel niveau ? C'est seulement à la fin, est-ce qu'il peut interagir ? Est-ce qu'il peut choisir l'information qu'il veut, comme si je vais dans une boutique, je veux telle couleur d'oignon par rapport à telle autre, ou bien je veux telle taille, ou bien telle quantité. Est-ce que aussi, dans le cas de l'information, c'est le même schéma qui se présente ?
Aujourd'hui, on ne peut plus se poser la question. Voilà, la technologie, les progrès technologiques ont rendu cela possible. Aujourd'hui, nous choisissons ce que nous voulons consommer. Nous produisons de l'information, nous interagissons et souvent même nous tentons d'usurper la place de celui qui historiquement, naturellement a été désigné comme le porteur de l'information. Donc aujourd'hui, cette question ne se pose plus en termes de possibilités parce que c'est faisable et on le vit, on vit cela tantôt d'une bonne manière parce qu'on a parlé des démocratisations de l'information, mais aussi on s'en inquiète parce que de plus en plus on parle de désinformation, de manipulation. Donc pour moi aujourd'hui, la question qui se pose justement par rapport à ce constat, c'est comment nous régulons, nous encadrons pour que cette situation ne nous détruise pas. Parce que le tout, la liberté absolue a montré ses limites. L'encadrement permanent, systématique, montre aussi ses limites. Donc, il nous faut trouver l'équilibre. Et c'est en ce sens que, depuis quelques années maintenant, on est en train de parler d'éducation aux médias et à l'information de tout le monde. Il ne s'agit pas de faire de tout le monde des professionnels de l'info, mais il s'agit de permettre à tout le monde d'être suffisamment sensibilisé au concept de l'information, à l'écosystème de l'information, pour qu'ils puissent savoir à quoi s'en tenir, identifier ce qu'il faut identifier, différencier ce qu'il faut différencier, parce que tout le monde aujourd'hui, à un certain niveau, est amené à produire de l'information, à consommer de l'information, à trier de l'information, et il ne faudrait pas se laisser manipuler. Il faut savoir à quoi s'en tenir face à ce qui nous est face.
Alors, Madame Rita Kwamina, sur la question, on voit apparaître de nouveaux concepts. Il faudrait peut-être nous aider à comprendre ces concepts, notamment fake news. Monsieur Kanga le disait tantôt, malinformation, mésinformation. Ça ramène à quelle réalité ces mots, ces vocables-là ? Quand on parle de fake news, de quoi il s'agit réellement ?
D'accord. Déjà, il faut savoir que quand on parle d'éducation aux médias, c'est très capital parce que vous avez souligné ces concepts-là qui font la une, je dirais, de tout ce qui est média. Donc, tout ce qui est fake news, c'est des informations qu'on va venir transformer, qu'on va donner aux populations. Il y a aussi le fait aussi qu'on va partir sur une information qui est vraie, mais on va l'erroner en transmettant l'information aux populations. Donc, c'est tous ces types de mésinformations qui vont venir déconstruire la réalité, en fait, qui est mise sur le plateau, en fait.
D'accord. Donc, si je comprends bien, c'est par rapport à tout ce que vous dites, que ce soit la malinformation, désinformation, fake news, derrière, il y a un objectif.
Oui, il y a forcément...
Mais c'est quoi l'objectif ? Si tant est que c'est quoi l'objectif ?
D'accord.
Déjà, mettre sur le marché quelque chose qui est faux.
Oui, de mettre sur le marché quelque chose qui est faux. Il faut dire que par derrière, l'émetteur n'a pas forcément objectif peut-être de manipuler. Voilà, il faut déjà reconnaître ça. Par contre, il peut aussi avoir pour objectif de manipuler. Il faut faire aussi la nuance, la part des choses. C'est là que va jouer le rôle de l'éducation aux médias. Donc, de manière intentionnelle, on peut avoir l'envie de déstabiliser en donnant une fausse information. Mais aussi, ça peut partir de juste envie de donner une information. Donc, il faut faire la part des choses. Mais dans tous les cas, il faut reconnaître que cette manière de communiquer-là peut avoir de graves conséquences pour la société. On a vu avec la COVID-19 ce qui s'est passé à Yopougon. Lorsqu'il y a une personne qui a publié sur les réseaux sociaux, on parlait de le site qui devait être le centre qui avait été construit était destiné à faire le dépistage de la COVID-19. Mais quelqu'un a posté sur les réseaux sociaux que ce centre était destiné à recevoir les malades de la COVID-19. On a vu par la suite tous ceux qui sont entraînés. Voilà.
Monsieur Mamadi Kébé, sur la même question, d'abord les différents mots. Pourquoi il y a autant de vocables pour désigner la mauvaise information? Pendant que la bonne information, c'est l'information, mais la mauvaise information, je me rends compte qu'il y a beaucoup de vêtements.
Ouais,
pourquoi en fait, tout ça?
En fait, je peux dire que c'est fait à dessein, parce que ces trois mots n'ont pas les mêmes définitions.
D'accord.
Quand tu prends le cas de la désinformation, c'est lorsque une personne, de façon intentionnelle, véhicule des fausses informations. Alors que la mésinformation, c'est lorsqu'une personne, en voulant informer, véhicule des fausses informations. C'est-à-dire que la personne n'a pas pour intention de donner une fausse information. La personne veut juste informer, mais il s'avère que l'information qu'elle passe est une fausse information. Alors que la malinformation se base sur des faits réels, mais qui a pour intention de peut-être nuire à une entité, à une société ou bien une personne. Donc tous ces mots ont leur définition propre à eux.
Alors, mais comment, vous qui êtes spécialiste donc, de ces questions-là, est-ce que vous pouvez nous dire comment elle est organisée? Comment ça vient? Comment ça apparaît?
Par exemple, je prends le cas de la désinformation. La désinformation, si je prends le cas de notre pays, la Côte d'Ivoire, est souvent structurée suite à des événements. Donc, on a ce qu'on appelle des complotistes. Des complotistes qui s'organisent en bande et veulent peut-être amplifier sur une question donnée. Je prends le cas de la COVID-19, Rita l'a si bien signifié. Il y avait peut-être un groupe de personnes derrière cette information qui était chargée de l'amplifier. Ces personnes contribuaient à la désinformation. Ce qui est différent de la mésinformation. Parce que la mésinformation, la personne qui donne l'information n'a pas pour intention réelle de nuire à quelqu'un ou à une entité. Sa première intention, c'est de donner une information. Donc, je me dis que par moment, ça dépend peut-être de la période, du contexte et des personnes peut-être qui véhiculent ces fausses informations.
Alors, est-ce que, M. Kanga, vous qui êtes donc enseignant-chercheur, est-ce que ces mauvaises informations ont des impacts sur la vie sociale, sur le quotidien des populations?
Oui.
Pourquoi il faut s'en inquiéter?
Oui, c'est clair, il y a des impacts. Hein. Je prends un événement majeur. Rita a donné l'exemple de la COVID, mais si vous vous souvenez du contexte des obsèques de Lattis Arafat, on a eu des émeutes sur la base de contenus qui ont circulé disant que c'est un mannequin qui a été mis dans le cercueil. Donc ça poussait les gens à aller jusqu'à déterrer le corps pour s'assurer vraiment que... voilà. Donc, il y a un risque. On ne peut pas ignorer cela. Et c'est d'ailleurs pourquoi il y a toute cette mobilisation internationale. Parce que le risque, il peut aller même jusqu'à menacer l'intégrité de nos sociétés. On prend par exemple les contextes électoraux où, si je prends les élections américaines 2016, un contenu qui a circulé disant que le pape François soutenait Donald Trump a influencé le vote de certains catholiques indécis. Donc, la désinformation, elle peut être très menaçante, elle peut avoir des impacts. Mais la guerre qu'on voit en ce moment en Ukraine, on voit que c'est un enjeu. Donc, les impacts peuvent être très importants au point de causer même des risques graves sur la vie. Un autre exemple, je crois que c'était en avril 2021 ou 2022, où, en Côte d'Ivoire ici, on s'en est pris à la communauté nigérienne sur la base de vidéos qui, à la vérité, n'avaient rien à voir avec ce qui était dit et autres. Donc, c'est un phénomène à ne pas négliger. En même temps, comment faire face? Parce que, vu ces risques, d'autres disent qu'il faut aller en guerre et on va utiliser une rhétorique militaire. Mais moi, je dis attention de ne pas tuer un moustique avec un marteau sur une table en verre. Parce que, pour faire simple, tout fake news n'est pas une fake news, en fait. Voilà, parce que, par exemple, tout ce qui circule le 1er avril ne peut pas être traité de la même manière que ces exemples que j'ai cités. Donc, et c'est pour cela, ça me permet de revenir peut-être sur une question que vous avez posée, c'est pour cela qu'il est important de faire la part des choses entre les différents concepts désinformationnels. Parce que, par exemple, les blagues du 1er avril, c'est pas de la vérité, mais elles ont un rôle social de régulation de la vie sociale, d'être fun et autres. Il est clair qu'il faut qu'on y prête attention pour voir comment est-ce que on ne les prend pas au premier degré, mais on ne pourra pas sanctionner par exemple une plaque de 1er avril comme quelqu'un qui ment clairement pour pouvoir susciter une émeute ou des violences.
Alors, une autre préoccupation, c'est de voir quel est le rapport qui existe entre les réseaux sociaux et la désinformation, les fake news, etc. Est-ce que c'est lié aux réseaux sociaux
Monsieur
Kébé Mamadi.
Après, parce que les fake news ne datent pas de maintenant. Bien avant l'avènement des réseaux sociaux, on avait des fake news qui circulaient. Voilà, le premier média de fact-checking peut-être qu'on connaît, je crois que c'était le New York Times. Il y a de cela bien longtemps que ça circule. Mais je peux dire que l'avènement des réseaux sociaux ont contribué à amplifier en fait cette question des réseaux sociaux. Parce que tu as quelqu'un qui a, avec seulement son smartphone, son profil de son réseau Facebook, Twitter, etc., se lève et crée peut-être une fake news ou balance une fake news sans prendre peut-être le temps de vérifier ses informations. Et en même temps, avec ses amis, ses abonnés, ça en contribue à partager et ça partage. Donc ces réseaux sociaux contribuent peut-être à amplifier davantage ces fake news que nous croisons ça et là.
Madame Rita Kouaminan suit la même préoccupation, les rapports entre réseaux sociaux et les fake news.
Je veux m'aligner sur la réponse de M. Kébé, c'est exactement ça. Aujourd'hui, il faut dire que chacun peut créer l'information derrière son smartphone, derrière son ordinateur. Nous vivons en société, on peut assister à un fait et on a envie de partager l'information à tout le monde. Et c'est là aussi que va jouer tout ce qui est fake news, malinformation en fait. Donc, il faut dire que les réseaux sociaux ont contribué à amplifier ce phénomène-là. Et aujourd'hui, avec, je pourrais dire, l'aspect viral du contenu média social, on va très vite toucher des personnes, très vite toucher un maximum de personnes, contrairement peut-être à un journal papier ou à la télé où peut-être le mal n'est pas plus grand en fait. Contrairement aux réseaux sociaux où lorsqu'une personne publie sur son compte, on peut facilement relayer en fait. Donc ça contribue à amplifier le phénomène.
Monsieur Kanga Donatien, sur cette même préoccupation, les réseaux sociaux, Monsieur Mamadi Kébé l'a dit, amplifient. Rita aussi a embouché la même logique. Est-ce que, dans ce cas, pourquoi n'est pas seulement se consacrer, si tant est que ça crée beaucoup de problèmes, pourquoi on ne se consacrerait pas aux médias traditionnels? Pourquoi n'est pas donné seulement l'opportunité aux médias traditionnels aujourd'hui de diffuser les informations?
Oui, mais parce qu'en fait...
Si avec l'autre, il y a trop de problèmes, pourquoi ne pas le laisser
trop,
à côté?
Mais il n'y a pas que trop de problèmes. C'est ça le truc. C'est qu'en fait, c'est comme un couteau voilà, ouais, qui nous sert et qui nous dessert. Donc, c'est ça le dilemme dans lequel nous sommes. Et c'est pour cela que l'une des solutions, c'est l'éducation, d'autres solutions, la régulation. Mais en fait, les médias sociaux ne sont pas que mauvais. D'ailleurs, ils sont apparus comme des messies au début des années, entre 2006-2007, l'apparition des réseaux sociaux importants comme Facebook, ensuite Twitter qui va suivre et autres, étaient considérés comme des symboles de la démocratie. On les présentait comme le progrès, les technologies de la démocratie participative. Kébé a parlé de journalistes citoyens. Le fait d'âme en journaliste de Twitter, c'était par exemple l'amérissage d'un avion sur une rivière aux États-Unis. Et CNN va faire un direct avec un utilisateur de Twitter qui était témoin de cet événement. Donc ça, c'est important parce qu'au lieu de dépêcher un journaliste de CNN pour aller faire ce direct, CNN va se contenter ce jour-là de contacter le Twitter, donc celui qui avait publié la photo de l'événement sur Twitter, et faire un live avec lui. Oh, c'est vraiment, on rentre résolument dans l'air du truc. Après, il y a eu ce qu'on appelle le printemps arabe, où les réseaux sociaux comme Facebook ont été des outils qui ont été utilisés pour mobiliser les citoyens, pour faire tomber Ben Ali, qui était considéré comme un dictateur. Donc, à cette époque, dans les débuts, ils sont apparus comme quelque chose de bien, quelque chose de bon à valoriser. Moi, je me souviens qu'entre 2012 jusqu'à une époque récente, on était sollicité, invité à participer à des rencontres qu'on appelait des tech camps dans différents pays, pour pouvoir ensemble réfléchir à comment on peut utiliser les réseaux sociaux pour agir en démocratie, agir en politique. Et des concepts comme les citizen tech, les trucs comme ça, ont commencé à apparaître. Voilà. Maintenant, c'est dit 2014, avec 2016, l'élection de Donald Trump et autres, va apparaître une nouvelle facette de l'outil qu'on a toujours vu comme bien. Et voilà pourquoi aujourd'hui, on ne peut pas dire « revenons simplement », tu sais, parce qu'on s'est pris à... D'ailleurs, les médias même ont investi ces espaces pour prolonger leur audience. Voilà. Donc, cette solution, elle n'est pas viable. Elle n'est pas viable, elle n'est pas tenable. On sera les premiers même à la violer. C'est pour ça qu'une des solutions, éducation aux médias, parce que je l'ai dit, un couteau, aujourd'hui, vous ne jetez pas les couteaux de vos maisons. Mais... on sensibilise tout le monde à savoir utiliser le couteau. On ne va pas le donner, par exemple, au bébé. Même si le bébé pleure, je ne vais jamais laisser un couteau dans la main de mon bébé parce que j'estime qu'il ne peut pas tuer. Donc, il y a déjà ces règles qu'il faut tuer. Qui doit être sur les réseaux sociaux? Est-ce que nos enfants, nos petits frères d'un certain âge doivent y être? Ils n'ont pas tué. S'ils y sont, est-ce qu'ils sont sensibilisés, formés pour pouvoir identifier ce que c'est qu'une information? Parce que on a beaucoup parlé de la désinformation, de trucs, mais quand on veut lutter par exemple contre la contrefaçon, on n'apprend pas la fausseté. C'est-à-dire, pour reconnaître un billet de 10 000 qui est bon, on ne va pas apprendre toutes les contrefaçons. On vous forme sur les caractéristiques d'un bon billet. Un bon billet de 10 000, voilà ce qu'il a et là, ça. Ce qui fait que quand vous avez un billet qui vient, le banquier il regarde, est-ce qu'il y a ça? Est-ce qu'il y a ça? Est-ce qu'il n'y a pas ça? C'est une contrefaçon. Donc, est-ce que les gens savent ce que c'est qu'une information? S'ils savent ça, tout ce qui vient après, que ça s'appelle malinformation, mésinformation, off-information, non-information. Et aujourd'hui, on voit apparaître les questions d'intelligence artificielle générative qui essaient de bousculer ce système. Aujourd'hui, vous n'avez même plus besoin d'écrire. Vous donnez des indications à un outil, vous lui dites « écris-moi un article sur le chat concernant les problèmes entre éleveurs et agriculteurs ». Il vous sort ça en moins de 5 minutes. Vous avez un article avec photo-illustration qui ressemble à un article. Par rapport à ces nouveaux enjeux qui apparaissent, comment on se prémunit pour ne pas aggraver la situation qui fait déjà peur?
Merci, Monsieur Donatien Kanga. Nous allons poursuivre cette émission. À mes auditeurs, vous êtes à l'écoute de Radio de la Paix. Nous sommes à l'émission en débat démocratie en progrès. Le thème qui nous réunit aujourd'hui est le suivant. Il s'agit donc de l'éducation et la formation des jeunes aux médias, outils et moyens de lutte contre la désinformation. Et pour en parler, comme je le disais tantôt, je suis en compagnie de Mme Rita Pascal Kouaminan, présidente de l'Association des blogueurs de Côte d'Ivoire. Je suis également en compagnie de M. Kébé Mamadi. Il est journaliste fact-checker au site ivoirecheck.com. Et je suis également en compagnie de M. Kanga Donatien, enseignant-chercheur à l'ISTC Polytechnique. Alors, monsieur, voilà, donc vous avez plus ou moins expliqué les enjeux de la bonne information et les menaces liées donc à la mauvaise information. Et vous dites vers la fin qu'il faut maintenant passer à l'éducation aux médias. C'est vrai, c'est un thème qu'on entend, l'éducation aux médias ou l'éducation à l'information. Qu'est-ce qu'on met dedans? C'est quoi l'éducation aux médias? Et si ça doit se faire, comment ça va se présenter? On va commencer avec vous, M. Kébé Mamadi. C'est quoi? On entend éducation aux médias. En son temps, on parlait d'éducation à l'informatique. Aujourd'hui, c'est éducation aux médias. Demain, ça va être l'éducation à l'IA. C'est quoi l'éducation aux médias? Comment on doit comprendre cela?
En fait, l'éducation aux médias, pour mieux cerner ce thème, en fait, il s'agit d'un premier temps de la sensibilisation, en fait. Sensibiliser les jeunes sur l'utilisation des nouveaux outils. Après la sensibilisation, il y a aussi des tactiques à leur transmettre pour qu'ils puissent connaître c'est quoi une bonne information, quelles sont les caractéristiques d'une bonne information, qu'est-ce que vous devez avoir en tête lorsque vous lisez une information pour essayer de taxer cette information de quelle que soit une bonne information ou une fausse information. Donc pour moi, l'éducation aux médias commence d'abord par la sensibilisation des jeunes à l'utilisation des nouveaux médias, comment les utiliser, et après, suite à ça, leur montrer les différentes tactiques de comment reconnaître une bonne information, qu'est-ce qu'il y a dans une bonne information commence par là et finit par ça, qu'est-ce qui différencie une bonne information d'une fausse information. Pour moi, c'est déjà un début qu'on peut transmettre aux jeunes pour essayer de lutter contre ce fléau.
Madame Kwamina Pascal, sur la même problématique, comment peut se présenter ce nouvel enjeu qu'est l'éducation aux médias et à l'information? Comment ça peut se présenter selon vous?
Déjà, il faut savoir que l'éducation aux médias, c'est former une personne à la bonne utilisation des médias. Donc, comment je peux utiliser un média pour en tirer le meilleur profit pour moi, en fait? Donc, aujourd'hui, on voit un peu tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Les jeunes sont amenés à poster des contenus qui ne sont pas très valorisants pour eux. Et l'éducation aux médias va venir emmener le jeune à prendre conscience que son utilisation peut avoir un impact positif ou négatif. Et c'est le véritable enjeu de l'éducation aux médias, en fait.
Alors, mais qui va faire cette éducation? Est-ce que c'est les enseignants qu'on a dans le système éducatif de tous les jours, ou bien c'est ceux qui sont tous les jours sur les réseaux sociaux? C'est vrai que vous parlez des jeunes, mais il n'y a pas que les jeunes qui sont des diffuseurs, entre guillemets, de mauvaises informations et ou utilisateurs de ces réseaux sociaux. Donc, je vous repose la question, Monsieur Kanga. Qui doit donner, quels sont les modules? Comment travailler sur le module à partager et ce partage d'informations, d'expériences, comment ça va s'organiser et se faire?
Ok. Déjà, première question, c'est qui? Qui, c'est naturellement les acteurs de l'information. Voilà, c'est les acteurs de l'écosystème informationnel. Donc, ça commence par les professionnels comme les journalistes et tous ceux qui y travaillent. Ensuite, vu qu'on parle d'éducation, les professionnels de la formation et de l'enseignement. Donc, je pense que c'est deux gros acteurs de ce nouveau concept disciplinaire qui est l'éducation aux médias et à l'information. C'est eux qui sont naturellement à même de pouvoir former, sensibiliser à ce que c'est qu'une information et autres. Et en général, les programmes d'EMI, d'éducation à l'information qu'on voit, vous allez voir que, par exemple, des programmes que je connais, pour lesquels même que j'avais été sollicité ici, c'était d'aller dans une école, par exemple, un lycée, et échanger avec les élèves sur mon travail à l'époque quand j'étais encore journaliste. Comment je commence par collecter les informations, les traiter, produire un article. Donc, il y a des modèles d'immersion où on peut, par exemple, envoyer une classe dans cette radio pour voir un peu comment vous, Monsieur Ben, vous avez préparé cette émission depuis le contact des invités, depuis la réception, les échanges. Ça leur permet de voir comment est fabriquée l'information et de pouvoir se faire une idée pour pouvoir développer leur esprit critique. Donc ça, c'est au niveau des acteurs, voilà, c'est-à-dire les professionnels de l'info. Donc c'est une nouvelle fonction qui est en train de se décliner pour les professionnels de l'info. Nous n'avons plus seulement qu'à produire de l'information, mais on a aussi à former, à sensibiliser pour que les gens comprennent notre travail. Ensuite, quel contenu? Le contenu, on peut le deviner à partir de ce que nous avons dit et trucs, mais c'est un contenu qui n'est pas enfermé, qui est développé progressivement. Parce qu'il faut savoir que l'EMI, par exemple, moi je sais qu'en France, ils parlent de l'EMI depuis les années 80. L'EMI, depuis quelques décennies déjà, c'est en expérimentation, en développement, en construction. Ces dernières années, vu les évolutions et ce qu'on appelle la société de l'information, l'UNESCO a élaboré plusieurs guides, par exemple, je crois qu'on est à la deuxième ou troisième version d'un guide standard pour toute organisation qui veut déployer l'EMI. Donc, vous avez des modules qui sont... je ne pourrais pas les détailler, mais il y a une liste. Même nous, à l'ISTC, il y a 2 ans, on vient de sortir d'un grand séminaire où on a notre curricula qui nous fait une dizaine de modules pour un parcours EMI. Il y a des parcours transversaux, fondamentaux, et puis il y a des parcours spécifiques parce que, par exemple, si vous êtes sensibilisé à des questions comme le genre, des questions comme l'environnement, la migration, vous devez faire des adaptations.
Alors, sur cette problématique, je suis tout à fait d'accord avec vous, Monsieur Kanga Donatien, mais nous allons parler des personnes qui n'ont pas accès soit à ces formations, soit à ces connaissances, qui sont beaucoup d'utilisateurs et qui parfois, entre guillemets, c'est eux qui mettent le feu aux poudres. Je vais parler de ce qu'on appelle les influenceurs, puisque c'est eux qui sont, pour notre histoire en Côte d'Ivoire, très souvent, ce sont eux qui sont interpellés. Alors, comment on peut expliquer cela et comment on peut, j'allais dire, je ne vais pas dire... pas contrôler, mais les aider à pouvoir faire leur job, parce que c'est un travail, sans pour autant mettre à mal la cohésion, l'éducation des populations et certaines valeurs sociétales. Madame Kwamina.
D'accord. Déjà, il faut savoir que les médias sociaux attirent beaucoup de personnes. Pourquoi ? Pour différents points. D'abord, la première des choses, c'est qu'on peut avoir de la notoriété grâce aux médias sociaux. Ensuite, on peut gagner de l'argent. Voilà. Donc, je pense que ces personnes-là ont compris ces deux aspects-là des médias sociaux. Gagner de l'argent et avoir de la notoriété. Tout le monde a envie d'être une star, une personne connue. Voilà. Donc, aujourd'hui, ces personnes avons utilisé ces moyens-là de communication pour pouvoir capter l'attention des gens autour de leur personne. Et en matière de monétisation, ça varie selon le média social. Donc, sur Facebook, par exemple, en fonction du nombre de vues, il y a un certain montant qu'on peut avoir. Sur TikTok également. Donc, ces personnes avons joué sur les sensibilités des gens en, par exemple, créant des informations ou en disant que j'ai telle information sur telle personnalité et tout pour pouvoir attirer l'attention autour d'elles. Donc, je tiens à souligner néanmoins que les Nations Unies, dans leur besoin de protéger les personnes qui travaillent en matière, dans tout ce qui est domaine d'information, ont estimé qu'une personne qui fournit des informations d'utilité publique fait du journalisme. Donc, à cet effet-là, il bénéficie d'une protection. Donc, je dirais que ce n'est pas toutes ces personnes-là qui travaillent sur les réseaux sociaux qui ont un impact négatif. Il y a des personnes qui font du bon travail. Et pour moi, le véritable enjeu pour tous ceux qui sont créateurs de contenu, que ce soit les influenceurs ou les blogueurs, c'est la formation. Et quand on s'intéresse à un milieu, il faudrait se former. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'espace pour se former. Même en ligne, on peut se former. Il y a plein d'institutions, d'entreprises qui organisent des formations. Et c'est, la plupart de ces formations-là sont gratuites. Donc, il est crucial pour moi que les influenceurs ivoiriens ou une personne qui s'intéresse au blogging puisse mettre au cœur même de son activité la formation. Et au-delà de la formation, je pense que l'État de Côte d'Ivoire, dans son souci d'éviter qu'il y ait tous ces dérapages-là, est venu recadrer les choses avec la nouvelle réforme de la loi sur l'audiovisuel aujourd'hui qui vient quand même mettre les gens sur le droit chemin. Et c'est important de réguler le milieu. Pour moi, cette loi-là, bien vrai qu'il y a encore des insuffisances, mais c'est un premier pas parce qu'on vient reconnaître l'existence des blogueurs et des influenceurs et des activistes pour dire que, comme quoi la loi, vous êtes aussi concernés par la loi. Parce que bien avant même qu'il y ait cette loi sur la communication audiovisuelle, il y avait déjà des lois qui existaient. Malheureusement, pour ces personnes qui viennent dans le milieu, ils ne prennent pas le temps de se former et de s'informer si ces lois-là qui existent pour pouvoir travailler correctement. Et c'est ce qui a entraîné tous ces dérapages-là. Et je pense qu'aujourd'hui, il faudrait que tous ces acteurs-là comprennent que ce qui est fondamental, c'est la formation. Voilà.
Alors, Monsieur Mamadi Kébé, sur la même question, faut-il, oui ou non, réguler les réseaux sociaux? Jusqu'où on doit réguler et jusqu'où on doit s'arrêter? Parce que, comme on le dit, entre la liberté d'expression et mettre sous cap les acteurs des réseaux sociaux aussi, parfois, il faut être vigilant, sinon on peut en abuser.
Ouais,
alors, selon vous, c'est quoi? Quel est le bon format?
C'est absolument crucial, c'est absolument crucial qu'on puisse réguler ce secteur. Parce que comme l'a signifié Rita, aujourd'hui, quelqu'un qui a plus de 25 000 abonnés est considéré plus ou moins comme un média. Parce que lorsqu'il lance, il lance son direct, il y a des milliers de personnes en fait qui viennent suivre le direct. Donc tout ce qu'il pourrait dire dans ce direct, si les abonnés n'ont pas le bon sens de peut-être chercher à vérifier, pourront croire à ce qu'il dit. Et là, les plateformes ont commencé. Je prends le cas de Facebook aujourd'hui qui part même à supprimer des comptes qui divulguent en fait des fake news ou des informations qui sont pas vraies. Ben voilà, ils tissent aussi des partenariats avec des médias de fact-checking qui procèdent à la vérification des informations et qui les postent sur leur compte Facebook. Et lorsque cette info n'est pas vérifiée, Facebook te informe déjà l'utilisateur de son compte, ah, cette information n'est pas vraie. Si vous voulez la lire, libre à vous, mais déjà Facebook vous informe que l'information n'est pas vraie.
Alors, sur la notion de 25 000 abonnés, est-ce que ça veut dire que si je n'ai pas 25 000 abonnés, que j'ai dit des choses, je ne suis pas poursuivable, si je peux m'exprimer ainsi. Non. Est-ce que c'est ce que ça veut dire?
Non. En fait, à partir de 25 000 abonnés, on est plus regardant en fait, de votre contenu. Mmh. Mais il en va de même pour le citoyen lambda en fait, qui est sur les réseaux sociaux. Comme je le disais tantôt, il existe des lois qui venaient sanctionner ces infractions en ligne, bien avant même qu'il y ait cette réforme de la communication audiovisuelle. Je voulais revenir sur le besoin de réguler le milieu. Il faut savoir qu'ailleurs, ça se fait. Des pays comme les États-Unis ou la France, là-bas, tout ce qui est métier de créateur de contenu influenceur est régulé. Aujourd'hui, on ne peut pas, par exemple, faire de la publicité des médicaments, par exemple. Aujourd'hui, il y a d'autres qui le font, en fait, sur les médias sociaux, où on fait des placements de produits et tout, sans même qu'on ait testé nous-mêmes, mais on vient proposer, par exemple, aux internautes. Et sur ces aspects-là, c'est vraiment régulé dans d'autres pays. Par contre, en Côte d'Ivoire, c'est pas régulé. Le besoin est pressant, en fait, qu'il y ait une régulation quand même, parce que toute activité a besoin d'être régulée pour pouvoir être bien utilisée, en fait.
Alors, M. Kanga Donatien, enseignant à l'ISTC Polytechnique, faut-il réguler, oui ou non, les réseaux sociaux et jusqu'où on doit réguler? Parce que la tendance aujourd'hui, oui, mais jusqu'où?
Merci. Sur la régulation, il y a deux éléments que nous connaissons bien, nous les journalistes, c'est l'autorégulation et la régulation. Au niveau de l'autorégulation, première chose, c'est ce qui va consister en la modération, en fait. Déjà, les plateformes technologiques ont une obligation, une responsabilité dans la modération des contenus. C'est vrai qu'il a cité Facebook qui fait des choses, mais personnellement, nous estimons que ce n'est pas très suffisant parce qu'un contenu dont on sait qu'il est faux, qu'est-ce qui nous empêche de le supprimer? Pourquoi se contenter de dire c'est faux? Et que si vous voulez lire, sachez que c'est faux. Il y a un problème. En fait, ce problème est lié à la conception que Facebook a de la liberté, qui est différente de nous, notre conception qui est proche de la France, donc du latin. Les anglo-saxons ont une conception absolutiste de la liberté. Nous, on a une conception préventive. Et donc, on a un conflit doctrinal en ce qui concerne ce que c'est que la liberté d'expression, qui fait que dans un cas comme celui-là, où ici, nous dirons un contenu qui est faux, il faut le retirer. Dans un pays comme les États-Unis, avec une société de culture américaine, dira non, on peut dire simplement que c'est faux, mais ça y est là, si tu veux, tu lis. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel il faut qu'on tranche pour que clairement, pour ce qui concerne nous, notre territoire, on prenne des décisions cohérentes avec notre position. Donc l'autorégulation est importante pour les structures, pour les sociétés, mais aussi pour les acteurs. Il faut que les acteurs s'autorégulent. Donc, des groupes comme l'Association des blogueurs ou l'Union des blogueurs ou des associations doivent pouvoir autoréguler le membre, le tube pour pouvoir permettre. Et je crois que le REPRELSI a lancé un programme qui s'appelait l'OMENSI, qui est un observatoire. C'est vrai que c'est pour les positionner la presse, mais c'est des choses qui peuvent s'éteindre ou s'étendre pour que, en notre sein, on puisse nous-mêmes se surveiller. Ça, c'est un premier as qui peut résoudre une partie du problème. Le deuxième as, c'est la régulation qui se manifeste concrètement par la réglementation. Et c'est en ce sens qu'on a beaucoup cité la loi. Mais il faut savoir que nous, depuis 2012, on a une série de lois, des tentatives de régulation du secteur. On a deux lois sur la protection des données à caractère personnel. On a la loi sur la cybercriminalité de 2013. On a même la loi sur la presse de 2017 qui déjà parlait des blogueurs, des produits, des community managers. C'est vrai que la loi ne s'étendait pas sur ces acteurs, mais déjà, elle est citée comme des professionnels de la communication. C'est vrai que la nouveauté de 2022, c'est qu'on ait dit que 25 000 abonnés et autres. Mais pour moi, ça reste encore très insuffisant parce qu'on parle beaucoup de régulation. Mais en même temps, le fait de considérer quelqu'un qui a 25 000 abonnés, est-ce que ça fait que la personne doit être bénéficiaire des mêmes droits que des médias, parce qu'il y a par exemple le soutien à la presse? Est-ce que quelqu'un qui a 25 000 abonnés est éligible au fonds de soutien et de développement à la presse? Ça, c'est une question qu'on ne pose pas. Mm-hmm. On l'évoque simplement pour la sanction. Mm-hmm. Mais justement, le revers, c'est que quelqu'un qui va se dire qu'il a 25 000 abonnés, il peut avoir aussi, au même titre qu'un média comme la radio de la paix, les subventions qui sont dévolues à la presse. Est-ce qu'on est prêt à ça? Donc la réglementation, il faut la prendre sur tout son bout pour tout. Moi, je pense que ces nouveaux acteurs des médias, les acteurs des nouveaux médias, je pense qu'il y a une réflexion à avoir sur concrètement le secteur. comment, quel statut on leur donne? Est-ce qu'on en fait un métier? Et donc, ça va avec tout ce qui est corporatif et autres. Ou bien ça reste une activité, mais qui reste réglementée, parce que de toutes les façons, il y a les règles de droit commun qui s'appliquent à tout citoyen, que tu sois blogueur ou pas. Ce n'est pas parce que tu es blogueur que tu as le droit d'insulter tout le monde, même si ce n'est pas Facebook. Donc, il faut qu'il y ait une réflexion spécifique pour ces acteurs qui ne sont pas forcément tous journalistes. Tous n'ont pas envie de faire de l'information. D'autres veulent faire de la mode, d'autres veulent faire du sport. Donc, il faut qu'on puisse vraiment réfléchir à eux, leur secteur, et concrètement réfléchir à la réglementation de bout en bout. Pas sur l'aspect pénal sanction, mais aussi sur l'aspect, par exemple, de la contribution aux impôts. Voilà, des gens se font des sous, ils placent des produits, mais la fiscalité ne passe pas par là. Pourtant, c'est de la publicité. Oui, il faut qu'ils contribuent parce que cet argent qui permet d'entretenir, comme on appelle les questions de connexion Internet, les bandes passantes et autres. Voilà. Donc, il y a également, mais aussi, ils sont bénéficiaires de droits, par exemple, les droits sociaux. Quelqu'un qui en fait son métier, s'il a un accident de travail, est-ce qu'il est enregistré, par exemple, à la CNPS et autres? Donc, il y a toute cette réflexion profonde à mener parce que c'est devenu une activité, et pour certains, ils disent que c'est leur métier. Une réflexion où on les associe, on associe les juristes et autres, on doit, toute la société en parle. On réfléchit pour vraiment tuer. Parce que tant qu'on va vouloir prendre des lois simplement, parce que ce que moi j'en sais, c'est que depuis 2013, on ne prend des lois que pour sanctionner. Et à chaque fois, on se satisfait, oui, maintenant, vous êtes surveillés et autres. En attendant, dans 2 ou 3 ans, que quelqu'un contourne, il faille quelque chose de plus grave, et puis on s'émeut, et puis on prend une nouvelle loi. Non, on ne va pas continuer comme ça, on ne résout pas le problème. Il faut le résoudre en profondeur. Elle a relevé la question de la santé. Les gens qui viennent proposer des médicaments qui sont dangereux pour la santé, ils vont nous créer des problèmes de santé publique après. Donc, je n'ai pas la solution, mais je pense que pour moi, il y a un travail en profondeur à mener. Parce qu'aujourd'hui, on sait qu'ils sont incontournables. Pourquoi ? Déjà, même les partis politiques, tout le monde a ses influences, tout le monde a ses activistes. À partir de ce moment déjà où tout le monde sait que c'est quelque chose qui est devenu central, autant poser le débat clairement, sans émotion, mais avec sérieux, pour résoudre les problèmes, parce qu'il s'agit de la survie de nos sociétés. Et pour nous, les petits pays comme la Côte d'Ivoire, qui ne sont pas très près, on peut très vite basculer. Et on a des expériences. Voilà un peu mon avis sur ça.
Merci, M. Kanga. Alors, M. Kébé Mamadi, avec vous, on va parler de la responsabilité des différents acteurs. Alors, qu'est-ce que le gouvernement, on va dire, les autorités publiques peuvent faire? Ensuite, il y a aussi la responsabilité de ces fournisseurs d'accès Internet, là. La responsabilité de ces fournisseurs d'Internet. Et puis, il y a nous-mêmes, en tant qu'utilisateurs ou consommateurs de ces informations-là. Donc, par chaîne, on va essayer d'expliquer un peu la responsabilité des uns et des autres. Parce que parfois, on a l'impression que c'est les autorités publiques et les consommateurs ou les utilisateurs. Et au milieu, vous avez toute une chaîne d'acteurs qui, eux, ils sont blancs. Ceux qui fournissent les plateformes, ceux qui donnent les datas, qui distribuent. Eux, apparemment, ils n'ont pas grande responsabilité. Pourtant, c'est eux qui donnent tous les moyens, les outils, et c'est eux qui tirent qui tirent beaucoup d'argent dans cette affaire. Alors,
Je pense que, comme vous l'avez signifié, les responsabilités se situent à plusieurs échelles, à partir des gouvernants, des responsables des réseaux sociaux et peut-être de nous qui sommes les utilisateurs, les abonnés. Au niveau des gouvernants, comme l'a signifié Dr. Donancien, il faut faire la répression, mais il ne faut pas se limiter à ça. Parce que comme depuis 2013, ces différentes lois, c'est vrai qu'on les annonce, mais il y a beaucoup d'insuffisances sur ces lois. Donc, il faut mener une très bonne réflexion sur ce sujet. Qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de mieux réguler ce secteur, pour que nous, les gouvernants, on puisse mieux recadrer ce secteur, et aussi pour que ces personnes, ces tenanciers de ces différents comptes sociaux puissent aussi avoir leur responsabilité. Maintenant, au niveau des influenceurs et des blogueurs, moi, je pars toujours de la base d'une formation. Il faut qu'eux-mêmes se forment, en fait. Il faut qu'eux-mêmes puissent se former pour mieux connaître le métier qu'ils veulent faire. Parce qu'aujourd'hui, comme on l'a dit dès le début, c'est devenu un métier parce qu'ils ont un petit profil. Voilà, quand ils font des placements de produits et tout, ils ont des retombées numéraires qui sont Donc, il faut eux-mêmes les former. Il faut qu'ils se forment sur ce qu'ils ont, ils ont choisi de faire. C'est idem aussi pour nous, les utilisateurs, en passant par l'éducation aux médias, comment utiliser ces réseaux sociaux, comment tirer profit de ces réseaux sociaux. Il y a aussi la formation qui y va. Donc, à chaque échelle, chacun doit apporter sa pierre à l'édifice pour avoir un truc complet.
Madame Kwamina Rita Pascal, sur la question des, on va dire des GAFAS, hein, de ces gros producteurs de data et de plateformes pour expression, comment on peut les intégrer dans ce gros processus-là, hein, à la fois d'éducation, de sensibilisation aux médias et à l'information? D'accord. Quel rôle ils peuvent jouer? Qu'est-ce qu'on peut attendre d'eux et comment on doit le faire?
Déjà, il faut savoir qu'il y a plein d'initiatives, hein, qui sont menées par ces fournisseurs de data pour justement former les jeunes, former la population sur la bonne utilisation des médias sociaux. Mais on veut davantage que ces formations-là soient ouvertes à un plus grand nombre de personnes pour que tout le monde puisse en bénéficier, en fait. Ça, c'est le premier aspect. Donc, miser vraiment sur la formation, que ce soit des acteurs même, mais aussi des utilisateurs d'une part. Et en ce qui concerne les médias sociaux eux-mêmes, je pense que sur cet aspect-là, l'État de Côte d'Ivoire, selon ce que la ACA nous a donné comme information en partenariat, en collaboration avec les médias sociaux comme Facebook et Twitter et autres, il va falloir aussi qu'ils puissent aussi jouer leur rôle de sanction, en fait, vis-à-vis des contenus qui sont mis face, ne pas se contenter juste de dire que cette information est fausse, carrément retirée. C'est vrai qu'il y a des règles sur, par exemple, Facebook, il y a des règles, on te dit, par exemple, que tu enfreins aux règles de la communauté et tout, mais il faudrait qu'ils soient davantage regardants sur ces types d'informations. En ce qui concerne les acteurs eux-mêmes, je pense qu'ils doivent s'impliquer davantage pour comprendre que il joue un rôle crucial. Je l'ai dit tantôt, les Nations Unies même sont allées plus loin à reconnaître même que celui qui poste des informations d'utilité publique fait du journaliste. Donc, ce rôle qu'ils jouent est assez pesant pour la société. Donc, ils doivent prendre conscience eux-mêmes de leur impact et du rôle qu'ils jouent pour pouvoir mieux faire leur travail.
Alors, M. Donatien Kanga, sur cette problématique, on voit qu'en Europe, aux États-Unis, ces grandes sociétés-là sont soumises à des règles et parfois sont interpellées, sont amendées. Mais en Afrique, elles évoluent comme un territoire conquis. On n'a jamais vu, on ne sait pas où elles sont situées, où on ne peut pas même les identifier en ville. Pourtant, nous tous, on utilise. Et ça, c'est quand même inquiétant.
Oui, c'est vrai. C'est tellement bien dit. Parce qu'effectivement, je dis souvent à mes étudiants, si vous êtes en procès avec Facebook et que vous avez une convocation de la police, où est-ce que vous vous rendez pour déposer cette convocation? Même si je vous paye un billet d'avion pour aller aux États-Unis, vous êtes aux États-Unis, est-ce que vous connaissez le siège? Ça montre toute notre faiblesse par rapport à ces... Mais il y a des précédents qui montrent que ce n'est pas fataliste. Il y a quelques années au Nigeria, le gouvernement nigérien a obligé Facebook à ouvrir un siège à Abuja. Ça a duré le temps que ça a pris, je crois que ça a pris 2 ans de tractation. Pendant ce temps, Twitter, du moins, était fermé, était bloqué au Nigeria. Et ils ont pu trouver un accord aujourd'hui. Twitter a un bureau à Abuja. Le Nigeria l'a fait parce que c'est le Nigeria. Ils ont plus de 100 millions d'habitants. C'est un gros pays pour l'Afrique de l'Ouest. Donc, je pense qu'il nous faut rééquilibrer les rapports de force entre pays africains. Et le meilleur moyen de rééquilibrer les rapports de force, c'est en étant unis. C'est-à-dire, si la Côte d'Ivoire se lève pour dire à Facebook, Twitter d'ouvrir un bureau en Côte d'Ivoire, ça sera difficile. Par contre, si la CEDEAO, mieux, si l'Union africaine dit, il faut que vous ouvrez un bureau dans chaque pays africain, sinon, on vous bloque l'accès ici, ça va se faire. Donc, il y a cette nécessité de rééquilibrer le rapport de force vis-à-vis de ces plateformes technologiques pour pouvoir, parce qu'elles ont un rôle, elles ont une responsabilité dans l'impact que les mauvaises utilisations de leurs plateformes ont sur nos pays. Voilà. Les gens utilisent ces plateformes pour faire des choses qui ne sont pas bien, pour tuer des gens, pour faire tuer. Donc, il faut... Ça, c'est en étant unis qu'on peut rééquilibrer la discussion et arriver à les amender. Parce que vous avez donné les exemples des amendes. Les États-Unis le font parce que c'est un grand pays. Mais même en Europe, la France seule ne peut pas sanctionner Facebook. Mais quand l'Union européenne, par sa commission de lutte contre la concurrence, la mauvaise concurrence, décide de sanctionner, il tape fort. Et ça, ça passe. Parce que c'est l'Union européenne, ce sont les 27 qui décident. Donc, c'est ce modèle-là. Il faut que, si l'Union africaine ne peut pas le faire, au moins les groupes régionaux, la CDAO, prend ce débat et traite cette question. Et sur ces trucs, on entre en discussion avec ces plateformes. Deuxième chose, ce n'est pas seulement la régulation, mais il y a aussi l'appui. Ce n'est pas seulement la réglementation, mais il y a aussi la contribution de ces plateformes dans le développement du secteur de l'information. Et ça, on n'en parle pas beaucoup parce que elles sont venues affaiblir une industrie. Une industrie. Pourquoi la désinformation a du succès? C'est parce que, oui, il y a cette facilité, cette viralisation, mais derrière, on a des médias qui sont de plus en plus affaiblis. Des médias qui ferment, qui ne peuvent pas payer des journalistes pour faire des enquêtes de fond. On parle de fact-checking, mais le fact-checking, ça bouffe du temps. Vous n'allez pas payer un journaliste pour qu'il vous fasse un article pour le mois. Il faut des moyens pour cela. Donc, ce manque à gagner là, il faut que, par des subventions, par des contributions, les GAFAM là aussi mettent la main à la poche. Ils le font en Europe, il y a des fonds de soutien de la presse qu'ils font aux États, mais pourquoi ils ne le font pas en Afrique? Il faut qu'on ait des mécanismes où il y a un retour, une contribution, même si c'est 5% qu'on donne pour redistribuer aux médias, pour que ces médias soient soutenus et qu'ils puissent être forts. Parce que, en fait, même si vous éduquez les citoyens et qu'il n'y a pas de professionnels de l'information, on ne règle pas le problème de la désinformation. Le problème de la désinformation, la solution, c'est plusieurs pieds. Il y a la régulation, il y a l'éducation et l'information, mais il y a aussi un secteur de la presse fort qui est indépendant et qui peut faire des enquêtes, des trucs, des sujets de fond, qui peut révéler des choses. Et mais pour cela, il faut de l'argent, il faut que ce média soit fort. Parce que si vous avez des journalistes qui ont faim, ils ne vont pas travailler, ils vont déjà manger que de faire des enquêtes. Donc, la pression ou la responsabilité des sociétés technologiques, elle est sur ce axe-là aussi. Régulation, donc ça, c'est nos gouvernants qui doivent pouvoir unir, les obliger à venir à la table de discussion. Et à la table de discussion, il faut mettre sur les sujets aussi bien la modération, mais le financement du secteur de la presse et même la formation. On parle des influenceurs et autres, mais il faut les former. Qui les forme? La formation coûte. Il faut les former. Donc, il faut lancer un programme de formation. Mais il faut que ces médias, c'est la juste contribution qu'on leur demanderait de former. Mais on ne va pas se contenter d'un événement tous les ans. On rassemble les gens dans un hôtel, on leur donne à manger, on parle de 2 ou 3 sujets et puis on dit qu'on a fait quelque chose. Non, c'est insuffisant par rapport à l'urgence de la situation et au risque qu'on peut observer dans l'usage malsain et malveillant de ces plateformes.
Merci beaucoup, messieurs. J'étais donc en compagnie de M. Kanga Donatien. Il est enseignant à l'ISTC Polytechnique. J'étais aussi en compagnie de Mme Kwamina Rita Pascal. Elle est présidente de l'Association des blogueurs de Côte d'Ivoire. Et j'étais également en compagnie de M. Kébé Mamadi. Il est journaliste fact-checker. Avec eux, nous avons parlé de l'éducation et la formation des jeunes aux médias, outils et moyens de lutte contre la désinformation. Ceci était dans le cadre donc de l'émission Démocratie en progrès, une émission qui est donc proposée par l'ambassade des États-Unis, réalisée par Radio de la Paix. À ce micro, Bendy Akité, technique, réalisation, Antoine Kouassi. Merci de nous avoir suivis et à très très bientôt. Merci.
Ce programme a été réalisé en partenariat avec l'ambassade des États-Unis.
Les grands débats. Radio de la Paix.